Fréquence Mistral, rendez-vous avec Nairi Boudet, sexothérapeute à Gap et Sisteron pour notre chronique mensuelle. Avec tout de suite le thème de notre émission.
Eh bien aujourd'hui, j'ai choisi comme thème l'infidélité, puisque souvent, lorsque des personnes me parlent de mon activité ou souhaitent en savoir davantage, ils me demandent « mais alors, est-ce que ce sont davantage les femmes ou les hommes qui sont infidèles ? Qu'est-ce que ça fait au couple lorsqu'il y a infidélité ? Est-ce que la plupart des gens se séparent ou non ?» Donc j'ai souhaité aborder ce sujet-là aujourd'hui pour essayer de rendre ce sujet un peu plus lisible et peut-être moins perturbant.
Est-ce que la conscience est là systématiquement dans le couple ? Ou alors il y a des choses qui ne sont pas dites, qui se font et qui se pensent aussi ? Est-ce qu'il y a une forme de tabou aussi peut-être ?
Je crois que c'est rarement posé dès le départ, en fait, la possibilité qu'il puisse y avoir infidélité au début d'une relation. Puisque au début de la relation, en général, on est dans ce qu'on appelle la période lune de miel. Donc c'est ce moment où les deux partenaires se lient de manière plus ou moins passionnelle. C'est ce moment où on a terriblement envie de voir l'autre, où il nous manque affreusement, où on se languit, comme on dit à Marseille, désespérément que l'autre nous envoie un message, on a terriblement envie de le voir. Donc j'employais exprès plein de superlatifs parce que l'envie est là, réelle, et parfois elle transperce de notre corps. Et donc souvent, c'est tellement une évidence qu'il n'y a que l'autre dans nos pensées et dans notre cœur, qu'on ne va pas forcément poser ce genre de questions. Ou alors on va demander par rapport au passé. Est-ce que tu as déjà été infidèle quand on est dans la phase où on apprend à se connaître ? Pour quelles raisons l'as-tu été ? Parfois les personnes vont être sincères, parfois non. Et en tout cas, c'est plutôt de cette manière-là qu'est posée la question. Mais pas dans le « et si ça nous arrive à nous ?» Surtout, qu'est-ce que ça viendrait dire de nous, de toi, de moi et de notre relation ? C'est rarement posé de cette manière et souvent le sujet est mis sur la table lorsque le couple y est confronté.
Cette chronique, c'est vous qui l'orchestrez. De quelle façon rentrer dans cette réflexion ?
Eh bien, moi, j'aimerais d'abord qu'on commence par parler du désir que l'on peut ressentir pour d'autres personnes. Parce que si les personnes que l'on rencontre dans la vie vont facilement dire « mais oui, c'est tout à fait normal, si on a des yeux, c'est pour regarder les autres, regarder n'est pas toucher ». C'est évident que on ne peut pas désirer toute sa vie une même personne. Donc ça, c'est le discours un peu normalisant qu'on peut entendre partout. Et puis, quand on est dans le couple, tout d'un coup, ça disparaît. Ce type de discours un peu qui agit comme un justificatif en fait d'une espèce de pulsion animale héritée des hommes préhistoriques. On est dans le gros cliché là. Hein. Moi, je trouve que c'est intéressant justement de poser la question du désir pour autrui. Question que pour le coup, les couples qui décident de s'engager dans le polyamour ou dans le libertinage, eux posent beaucoup plus volontiers. Parce que quelque part, ce postulat-là est posé et du coup, les personnes viennent aussi interroger ce que ça leur fait. Qu'est-ce que ça me fait que mon compagnon, si on reste sur un couple hétérosexuel, qu'est-ce que ça me fait que mon compagnon puisse désirer une autre femme ? Qu'est-ce que ça me fait que ma compagne puisse échanger, peut-être des SMS, pas du tout avec vocation à ce qu'il y ait un rapport sexuel, mais qu'est-ce que ça me fait qu'elle puisse échanger des SMS avec un homme qu'elle désire ?
Est-ce qu'il faut donc, d'après vous, systématiquement, mettre les cartes sur la table, en parler ?
Oui, mais je ne suis pas sûre que ce puisse être possible dès le départ. Ce qui est important, c'est que les couples puissent d'abord se concentrer sur le fait de construire de la confiance. Et la confiance l'un dans l'autre. Et quand je parle de confiance, je ne parle pas de fidélité. Je parle de confiance dans le fait de se dire, voilà, ce que j'ai à dire est reconnu par l'autre, ce que j'ai à dire est véritablement entendu par l'autre, ce que j'ai à dire peut être même questionné par l'autre, mais pas pour qu'il me conduise à me remettre en question immédiatement, mais tout simplement pour qu'il puisse m'interpeller et me dire qu'es-tu en train de dire, peut-être y a-t-il des incohérences, certains paradoxes. L'autre avec un grand A, c'est celui qui me conduit à m'interroger sur moi, c'est pas celui qui me coince forcément. Parfois l'autre me coince et c'est pas forcément agréable, mais c'est pas forcément ce qu'on attend d'un partenaire. Donc construire d'abord cette confiance-là pour que ensuite, souvent c'est au bout de quelques années, et je pense que c'est bien de pas forcément mettre les pieds dans le plat immédiatement, parce que on vit dans une société où la norme c'est l'exclusivité. Moi je vous dirais bien volontiers, c'est bien de le dire dès le départ évidemment, mais on ne peut pas faire fi en fait de cette norme qui existe, et on ne peut pas faire fi du fait que la plupart des couples de notre société aspirent quand même à déjà à l'hétérosexualité, puisqu'on vit dans une société hétéronormative, mais aussi aspire à l'exclusivité, parce que c'est rassurant, parce que c'est aussi peut-être le meilleur moyen d'établir un lien intime, de confiance. C'est difficile, le polyamour. On y reviendra peut-être, mais d'avoir des relations de qualité éthique avec plusieurs personnes, ça demande un travail. Et c'est en ce sens que ce n'est pas forcément évident, ça demande de l'attention aussi. Donc, se concentrer sur une personne, c'est déjà pas mal. Surtout quand il y a des enfants, le travail, les activités sportives et culturelles, etc. Donc, construire cette confiance pour ensuite pouvoir aborder ce sujet-là et dire, ben voilà, qu'est-ce que ça fait si je désire ton meilleur ami, mon prof d'aïkido, qu'est-ce que ça fait au couple? Et là où ça devient intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas du prof d'aïkido ou du meilleur ami ou du boulanger. C'est souvent lui que j'invoque quand je donne des exemples. C'est plutôt ce à quoi cette personne-là me renvoie. C'est-à-dire que l'autre ne va pas m'intéresser pour rien. Il y a toujours quelque chose chez l'autre qui me ramène à moi et qui fait que je vais ressentir du désir pour lui.
Nahiri, pour un tel dialogue, il faut donc une réciprocité. Il faut que la personne à qui l'on s'adresse soit prête à accepter, à entendre également. Est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce qu'il y a vraiment des signes qu'on doit percevoir?
Mais c'est là où une bonne communication, elle se fait plutôt au niveau des émotions. C'est-à-dire, souvent, quand on veut parler d'un sujet important, on va parler des faits. Or, ce ne sont pas les faits qui sont importants en eux-mêmes, mais ce sont les émotions. Plutôt que de dire « je ressens du désir pour le prof d'aïkido », ce qui va être intéressant, c'est déjà que la personne puisse prendre du recul sur elle-même, si c'est possible, bien sûr, avec un thérapeute ou des amis ou elle-même en introspection. Et se dire « à quoi il me ramène ce prof d'aïkido ? À quel moment est-ce que je ressens ces papillons dans le ventre ? C'est quand il va prendre soin de moi et m'expliquer bon, « j'ai jamais fait d'aïkido ». Je donne des exemples. C'est au moment où il va m'expliquer telle ou telle technique que je me sens soutenue, je me sens pris en compte, je me sens valorisée. Et cette personne-là, elle me regarde vraiment avec attention. Et là, la personne du coup qui ressent du désir pour le prof d'aïkido peut commencer à comprendre aussi quelle est la nature de ce désir. Et c'est peut-être plutôt ça qui est intéressant à partager au partenaire que le simple fait qu'on désire le prof d'aïkido. C'est le fait qu'on est touché par le fait que quelqu'un puisse nous montrer de l'attention, de la valorisation de cette manière. C'est ça qui nous touche et ça va se traduire par du désir parce que oui, si ça nous touche, ça conduit à la libération de différentes hormones, du plaisir, ça fait du bien. Ça nous fait un shoot de reconnaissance incroyable et c'est difficile de résister. Et c'est là aussi où le couple peut commencer à faire bloc aussi pour aller, pour éviter l'infidélité. Pas parce que je suis dans la morale à dire que l'infidélité c'est mal ou l'infidélité c'est bien. Simplement, si le couple souhaite se prémunir de l'infidélité parce qu'il considère que ça va mener à la destruction du couple ou tout simplement à l'éloignement des partenaires, à ce moment-là, ça peut être intéressant de pouvoir discuter de ces choses-là.
Est-ce qu'il y a une chronologie, disons, dans la relation du couple? Est-ce qu'à partir d'un certain temps, il faut se poser la question, se dire de quelle façon il faut que j'agisse pour que la partenaire ou le partenaire continue à désirer, que l'harmonie continue à être omniprésente?
En fait, je dirais dès la fin de la lune de miel. C'est important une lune de miel qui peut durer entre quelques mois, quelques semaines même peut-être, et quelques années. C'est pour ça que l'auteur Frédéric Becbédé avait écrit un livre qui s'appelle L'amour dure 3 ans. C'est plutôt la lune de miel qui dure jusqu'à 3 ans, apparemment. Pas vérifié non plus, j'ai pas fait d'enquête quantitative, mais ce qui est certain, c'est que plus le couple connaît des élans passionnels au début, plus vite ces élans passionnels se tariront aussi. Donc dès la fin, c'est-à-dire dès la fin de ce qui nous semble aller de soi, dès la fin de l'évidence, quand on commence à se reconstruire sur d'autres bases que juste la passion, à ce moment-là, ça devient intéressant de se poser la question. On se connaît davantage, donc on a aussi davantage confiance l'un dans l'autre. Il y a moins d'incertitudes dans le couple et donc on peut commencer vraiment à lancer ces sujets-là. Bien sûr, ces sujets-là peuvent aussi abîmer la confiance, mais comme on le disait tout à l'heure, il est important de ne pas voir comme ces sujets-là comme quelque chose qui vient créer de la distance, mais au contraire, je veux donner la possibilité à l'autre d'encore plus me connaître. Ce qui compte, c'est pas le fait que je puisse, mais je sais que c'est super difficile parce que on vit dans une société où tout nous conduit à désirer et à être rassuré par l'exclusivité. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de pouvoir communiquer à son partenaire le fait qu'il y a quelque chose en nous, un enfant blessé par exemple, qui continue à avoir besoin d'attention. Et parfois, il y a des personnes qui vont être dans des positions, on parlait du prof d'aïkido, mais ça peut être aussi l'enseignant, ça peut même être aussi parfois, malheureusement, le thérapeute, qui sont dans des positions où elles sont capables de pouvoir donner de la valorisation aux autres. Et parfois, la tentation de l'emprise est pas loin aussi. Et c'est là aussi où, comme je disais tout à l'heure, le couple peut faire bloc, aussi pour protéger l'un des deux partenaires qui pourrait avoir tendance à aller se réfugier là-dedans, et parfois à son détriment. J'ai pu travailler avec un couple et l'une des deux personnes exprimait qu'elle ne pouvait pas s'empêcher d'aller compulsivement vers des personnes qui lui montraient de l'attention et en même temps qui se sentait extrêmement malheureuse de ne pas pouvoir retenir ses pulsions, disait-elle.
Dans la supposition toujours, il y a une liaison extra-conjugale. Que se passe-t-il dans la tête de la personne qui va se sentir en même temps coupable? Elle va forcément culpabiliser. Quels sont les effets qui peuvent se répercuter?
Moi, je dirais que ça dépend. En fait, déjà, moi, je ne suis pas sur le terrain au moment où les personnes sont en train de tromper leur compagnon ou leur compagne. Et ce à quoi moi j'ai accès, c'est le discours post-acte. Et là, je m'aperçois que souvent, là encore, j'ai pas fait d'enquête, hein, c'est plutôt ce que je peux observer au sein de mon cabinet, c'est que les hommes et les femmes vont recourir à des discours différents pour justifier leurs actes. Souvent, les femmes vont mettre en avant le fait que leurs compagnons ne leur ont pas suffisamment accordé d'attention, qu'ils les ont laissés seuls, qu'ils ne se sont pas suffisamment préoccupés d'elles, que ce soit sur le plan affectif ou sexuel, et que quelque part, elles avaient besoin d'être soutenues et qu'elles ont cherché ce soutien ailleurs. Il n'y a pas tout un vocabulaire lié à la faute et à l'erreur qui est utilisé, alors que les hommes recourent beaucoup plus à ce type de vocabulaire. Encore une fois, je précise, les hommes qui viennent à mon cabinet, en thérapie de couple particulièrement. Mais même lorsqu'ils viennent seuls, beaucoup vont utiliser les termes erreur, j'ai fauté, je suis dégoûtée, je me sens sale. Ce ne sont pas des mots qui sont employés par les femmes au sein de mon cabinet, encore une fois, je le précise. Donc moi, ce que j'en conclus, c'est que les discours qu'ils mobilisent pour justifier ce qui s'est passé sont différents. Mais ce ne sont que des discours. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aller creuser derrière. C'est jamais juste une erreur, une faute. Déjà, ce qui est important, c'est de pouvoir en parler vraiment. Et on ne peut pas en parler vraiment tant que les mots comme erreur et faute sont employés, puisque ces mots-là charrient un imaginaire négatif qui vient teinter la discussion de plein de choses qui ne vont pas aider à faire une réelle introspection. Ou même quand je dis oui, je manquais d'attention de la part de mon compagnon, etc., le compagnon n'a pas pour but de distraire sa compagne. Le concept du couple Évidemment, c'est le soutien mutuel, c'est le fait de s'accorder de l'attention, d'être de bons parents, peut-être aussi de bons cohabitants. Mais ce n'est assurément pas de jouer le rôle de nous n'avons pas, en tant que partenaire dans un couple, à jouer en permanence un rôle pour combler les attentes de l'autre. C'est à l'autre aussi de travailler sur ses attentes. Donc je ne dis pas qu'il faut encourager les personnes qui n'accordent pas d'attention à leur partenaire, mais c'est juste déjà à questionner en fait. Et puis à un moment donné, si je recours à ce discours-là, en disant j'avais besoin d'attention, mon compagnon ne m'en a pas donné, qu'est-ce que ça dit de mon besoin d'attention? Comment est-ce que je me situe moi vis-à-vis de tout ça? C'est à ce type de réflexion-là qu'il est intéressant d'aboutir.
Nous pouvons être également dans le mécanisme de l'auto-sanction. C'est-à-dire, je vais me punir, bon, puisque j'ai fait ça, je vais me mettre à manger, il faut que je comble un vide. Il y a ce côté peut-être aussi un tout petit peu démesuré, non, qui peut se présenter.
Oui, effectivement. Justement, tout à l'heure, on parlait du fait que nous vivons dans une société où c'est l'exclusivité qui est prônée. Donc, effectivement, c'est difficile pour beaucoup de personnes d'échapper à la culpabilité malgré tout. Malgré le discours qui puisse être utilisé pour justifier les actes. Donc effectivement, parfois, certaines personnes vont recourir à de l'auto-sabotage ou de la punition ou tout simplement en échappatoire pour pouvoir ne plus être coincé avec les émotions négatives liées à l'acte qui a été fait. Mais encore une fois, ce n'est pas l'acte en lui-même qui pose problème. Ce n'est pas tant le fait d'avoir été infidèle en lui-même. Ce qui pose problème, c'est cette peur de perdre l'autre, la peur d'être seule, la peur d'avoir fait du mal et de courir le risque qu'on me fasse du mal en retour ou qu'on me laisse seule. C'est ça le véritable problème. Ce qui est intéressant dans l'infidélité, c'est que ça met au jour tout un tas de problématiques. Donc en parler, même si c'est compliqué, c'est aussi arriver à parler de choses qui sont infiniment intéressantes et qui sont difficiles à dire la plupart du temps. Donc effectivement, pour revenir à votre question, tout ce qui est compulsion alimentaire est un moyen malheureusement redoutablement efficace pour se punir. Voilà, donc nous arrivons au terme de cet entretien mensuel. Nous nous retrouverons donc le mois prochain pour la suite de cette chronique dédiée à la sexothérapie et à la thérapie de couple, avec le mois prochain comme sujet, les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire, et la manière dont ils peuvent influer sur la vie conjugale, sur la vie affective et sexuelle.